France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, et si vous profitiez de la journée mondiale sans tabac qui a lieu aujourd'hui pour arrêter de fumer ? Il paraît que plus de la moitié des fumeurs aimeraient se débarrasser de cette mauvaise habitude qui leur coûte cher et qui en plus leur détruit la santé. Car faut-il le rappeler, la moitié des fumeurs mourront du tabac et de ses conséquences. En France, cela représente 75 000 morts chaque année, plus de 200 morts par jour, autant dire un désastre. Et dans ce domaine aussi, les femmes sont en train de rattraper les hommes avec toutes les conséquences négatives que cela implique. Leur mortalité liée au tabac augmente de 5% par an. Et pourtant, il y a des raisons de se réjouir malgré ces chiffres particulièrement inquiétants. Depuis deux ans, en effet, le nombre de fumeurs est en baisse en France. 1 600 000 fumeurs ont raccroché et surtout, on constate chez les plus jeunes, chez les adolescents, que le tabac est en partie passé de mode. Cela dit, il y a toujours 25% de fumeurs quotidiens en France, c'est beaucoup plus que dans d'autres pays, et le tabac reste la première cause de décès évitable. Alors, que faire pour arrêter de fumer ? Les mesures prises jusque-là par les pouvoirs publics sont-elles suffisantes ? Faut-il aller plus loin ? Et si oui, comment ? C'est ce que l'on va voir avec nos invités à qui vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Deux médecins à nos côtés ce soir, Marion Adler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Yves Martinet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Chef du service de pneumologie au CHU de Nancy, président du comité national contre le tabagisme. Pour nous joindre, eh bien, le numéro c'est toujours le même, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel. Audrey nous appelle de Paris. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci et merci aussi pour cette émission. Je pense que c'est bienvenu effectivement. En fait, ce qui me frappe par rapport à l'arrêt du tabac, c'est que on en parle d'une manière un peu père fouettard. Il n'y a pas une manière qui est liée soit au plaisir d'arrêter, soit à ce qui nous fait fumer et donc qui peut aussi nous aider à arrêter. Donc concernant le plaisir d'arrêter,
vous êtes une ancienne fumeuse, Audrey ?
Moi, je suis une ancienne fumeuse. Oui, j'ai fumé pendant une quinzaine d'années, et puis j'ai arrêté de fumer parce que j'avais créé une association et un des bénévoles, une fois assez jeune, est sorti avec une cigarette et ça m'a assez choquée. Alors je lui ai dit, bien écoute, ce soir on fume tout ce qu'on peut et on arrête demain. Et donc c'est comme ça que j'ai arrêté. Et après j'ai compris un certain nombre de choses qui m'ont permis de continuer d'arrêter, parce qu'en fait le problème avec la cigarette comme avec l'alcool, c'est que une fois qu'on a mis le pied dedans, en fait on l'est à vie et que le plus facile c'est de pas commencer. Mais bon, une fois qu'on a commencé, comprendre quel plaisir on peut avoir à ne plus le faire et à quel besoin on répond quand on l'utilise, eh bien ça peut aider à rester abstinent.
Alors justement, Audrey, puisque vous êtes là, parlez-nous de ce plaisir d'avoir arrêté.
Alors le plaisir, en fait, ça permet de retrouver des sensations qu'on avait souvent oubliées. Donc déjà, ça permet d'avoir un meilleur odorat et un meilleur goût. Donc ça veut dire que l'on reprend du plaisir et à ce qui est juste quand on mange, par exemple. Alors que le fait d'avoir un goût correct et un odorat correct permet de manger ce qui est juste pour nous. Si c'est un petit peu abîmé, en fait, eh bien, on va moins manger ce qui est juste pour nous. Par ailleurs, ça permet aussi de ressentir sa propre odeur, en fait. Et à un moment où le fait de fumer, même si on fume pas chez soi, en fait, il y a même des gens qui ne sentent jamais leur odeur, tellement ils fument et tellement il y en a partout. Et donc il y a vraiment ce besoin de se ressentir. Et moi, par exemple, j'avais demandé à mon ancien copain, alors que j'avais déjà arrêté, d'arrêter de fumer, parce qu'en fait je ne le sentais pas et que ça fait partie des choses fondamentales dans une relation que de sentir la personne avec qui on est. Donc ça, c'est par rapport au plaisir.
Merci.
Et après, par rapport à la reconnaissance d'un besoin, il y a une chose qui rend difficile le fait d'arrêter, c'est l'aspect social et le fait de pas reconnaître un besoin. Donc l'aspect social, par exemple, quand on veut être en pause et qu'on se retrouve avec un groupe de personnes qui fument toutes, c'est très difficile d'arrêter. Et le problème de la pause en France et dans un certain nombre de pays, c'est qu'elle doit être justifiée par quelque chose, qui doit être la cigarette ou le café. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas très justes pour nous.
Merci Audrey, vous êtes intarissable, mais je vais vous arrêter quand même. Merci mille fois.
Sans attendant, je rajoute une chose qui est importante, c'est la notion de respirer. Souvent, on ne reconnaît pas aussi le besoin de respirer et de s'aérer. Et en fait, en faisant ce genre de choses, eh bien, ça nous permet de vraiment changer la notion de pause et le besoin. Donc voilà, faites attention à vos... Comment est-ce que la cigarette peut vous permettre de vous dire qu'il y a un besoin auquel vous ne répondez pas?
Voilà, merci mille fois Audrey, une vraie avocate de l'arrêt du tabac, docteur Marion Adler. Hein.
Absolument, je dirais même Audrey, bravo comme patiente experte, c'est-à-dire qu'elle peut entraîner les autres pour les aider à arrêter de fumer parce qu'elle est très motivée et qu'elle exprime exactement ça. Alors c'est très important ce qu'a dit Audrey, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la non-souffrance du manque de nicotine, et c'est vraiment très majeur quand on arrête de fumer, et il y a le plaisir, de plus en plus, le plaisir à avoir arrêté. Donc il faut pouvoir avoir les deux. Augmenter le plaisir, c'est pouvoir justement respirer mieux. Au bout de 24 heures, on élimine le monoxyde de carbone et on élimine donc la fumée de cigarette. Et la nicotine que l'on peut prendre quand on arrête de fumer permet de ne pas souffrir du manque. Donc on n'a que le plaisir. Et Audrey a parfaitement raison, et c'est ce que je dis à tous mes patients. L'arrêt de tabac, ça doit être de plus en plus du plaisir et uniquement du plaisir. Et si on ne ressent pas la souffrance du manque, la prise de poids, etc., on n'a pas la prise de poids avec la nicotine, et bien on a de plus en plus de plaisir. Donc Audrey est tout à fait dans le vrai.
Yves Martinet, vous partagez ce point de vue, évidemment.
Dans le discours d'Audrey, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, c'est qu'on a affaire à une drogue dure. C'est-à-dire, c'est une véritable toxicomanie. Et j'insiste sur une notion qui est assez récente, c'est que lorsqu'on observe des enfants qui fument leur première cigarette pour voir. Vous voyez, c'est vraiment la première cigarette. Deux enfants sur trois qui vont fumer une cigarette pour voir seront fumeurs quotidiens pendant une période de leur vie. Donc, on a affaire à une drogue dure. C'est pour ça que c'est important le côté positif, mais il faut savoir contre quoi on se bat. Et la lutte est vraiment difficile.
La lutte est difficile, mais il y a quand même des signes encourageants, je le disais en commençant. Il y a une baisse de la consommation de tabac en France, et ça, c'est pas un détail, Marion Adler.
Non, tout à fait. Alors, la lutte ne doit pas être difficile si elle est bien prise en charge. Il y a tous les moyens maintenant, et justement, la baisse est aussi liée au fait que le gouvernement actuel nous a permis d'avoir le remboursement total des traitements d'aide à l'arrêt du tabac, les substituts nicotiniques et les traitements médicamenteux. Je pense que ça, c'est une aide importante. L'accès aux consultations aussi remboursé. Et puis surtout, dénormaliser dans les lieux publics le tabac. Donc il y a beaucoup de mesures qui permettent de diminuer ça.
On est sur la bonne voie, oui. Yves Martinet.
Vous avez insisté sur le fait qu'il y avait une baisse d'1,6 million de nombre de fumeurs.
Et les ça, chiffres qui c'est viennent de nous être donnés.
Excellente nouvelle. Et ce sont à la fois des fumeurs qui ont arrêté de fumer et des jeunes qui ne sont pas entrés dans le tabagisme. Ceci étant dit, vous avez insisté, nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos espoirs. C'est-à-dire que le nombre de fumeurs actuellement en France est anormalement élevé. Alors, pour différents motifs. Alors, d'abord, il y a eu un certain retard à l'allumage des pouvoirs publics. Maintenant, il y a réellement, comme Marion vient de le dire, il y a eu des mesures qui ont été prises. Le prix, on pourra en revenir dessus.
On y reviendra.
Le remboursement des substituts, enfin des traitements de la dépendance. Il y a différentes mesures qui ont été prises. Mais actuellement, nous avons une extrêmement bonne législation en France. Seulement, il faudrait, et je pourrais développer un peu plus tard, la mettre en œuvre.
Et on y reviendra, c'est promis. Mais Isabelle nous attend au standard de France Inter. Isabelle qui est à Éparcy, dites-nous où c'est, Isabelle. Bonsoir.
Bonjour, c'est le nord du département de l'Aisne, c'est à la limite des Ardennes, de la Belgique et du département du Nord, tout en haut.
On vous écoute voilà. Isabelle.
Voilà, bonsoir. Moi je disais, enfin, je trouve que c'est un peu incohérent. Notre État français s'enrichit avec les taxes liées au tabac. Et parallèlement, alors si vraiment c'est mauvais pour notre santé, si vraiment ça nous pollue, je ne mets pas en doute tout ça, hein, absolument pas. Mais à ce moment-là, alors pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas purement et simplement de fumer et le tabac et qu'on arrête de le vendre alors comme la drogue plutôt que d'interdire un peu par-ci, un peu par-là. Maintenant, on peut plus fumer dans les... Personnellement, je ne fume plus depuis 45 ans. Donc, mais je trouve que ça devient ridicule. Enfin, on peut plus fumer dans les halls, dans les gares, on peut plus fumer sur les quais, on peut plus fumer dans les jardins publics. Alors, ou on peut plus du tout, et c'est interdit complètement parce que c'est mauvais pour notre santé. Ou alors, on admet que les gens puissent fumer quand même dans les endroits un peu aérés. Un jardin public, c'est un endroit aéré quand même.
Merci beaucoup, Isabelle. Alors, Yves Martinet.
Isabelle a dit une inexactitude qui est par rapport au fait que l'État s'enrichit. Alors non, l'État ne s'enrichit pas. En gros, 15 milliards de taxes qui sont prélevées, TVA comprise, sur la vente de tabac en France par an. Rien que les coûts sanitaires, c'est-à-dire le traitement des maladies qui sont liées au tabac, on est à 29 milliards. Et le coût pour la société, il est évalué à 120 milliards. Alors, il est peut-être pas de 120, il est peut-être inférieur, peu importe. Mais actuellement...
En tout cas, ça ne rapporte pas.
Ça ne rapporte pas, loin de là. Alors, la question, et c'est parfaitement légitime de se la poser, pourquoi on n'interdit pas la vente de tabac? C'est ce que je vous ai dit au début. Vous avez une toxicomanie dure. Vous avez 13 millions de Français qui sont victimes d'une toxicomanie dure. Vous arrêtez du jour au lendemain de leur vendre leur drogue, vous avez un bazar qui est ingérable. On ne peut pas. C'est pour ça qu'en aucun cas, personne ne vise l'interdiction actuellement, l'interdiction de vente de tabac. C'est pour plus tard, mais on n'y est pas encore.
Alors moi, je rajoute une question par rapport à ce que ça peut coûter à la société. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer l'industrie du tabac? Pourquoi est-ce qu'on ne la ferait pas payer un petit peu plus, Marion Adler?
Je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas au gouvernement, mais en effet, alors il y a des taxes déjà qui permettent de rémunérer le fonds tabac, de rembourser les traitements. Donc je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est fait par le gouvernement, mais vous avez raison. Finalement, il y a quelqu'un qui s'enrichit quand même.
Et même
c'est
beaucoup,
probablement
hein,
l'industrie du tabac. Et en effet, mais alors du coup, c'est pour ça qu'il faut aider les gens, faire vraiment des politiques de santé publique. Et comme l'a dit tout à fait Jean-Yves, c'est qu'il faut vraiment qu'au fur et à mesure, on y arrive. Avec les politiques qui, au fur et à mesure, comme on le voit dans d'autres pays, dénormalisent le tabac et le cannabis, hein, bien sûr.
Alors on va voir comment on peut faire. Et on a Dominique qui est en ligne. Bonsoir Dominique.
Bonsoir à tous.
Vous avez réussi à arrêter, c'est ça?
Moi, j'avais arrêté pendant 9 mois grâce à la cigarette électronique. Donc, j'avais ma dose de nicotine, un goût qui était assez satisfaisant. Par contre, j'ai repris suite à une expérience professionnelle où j'étais entourée de fumeurs. Et à présent, la cigarette électronique ne me satisfait plus du tout. Enfin, j'en ai plus du tout envie. Voilà. Et j'aimerais comprendre, enfin, en tout cas, savoir ce que pensent vos spécialistes de ce substitut-là.
On va leur poser la question. Vous avez raison, parce que c'est une vraie question qui se pose. Et vous n'êtes pas la seule. Merci beaucoup, Dominique. La cigarette électronique, Marion Adler.
Alors, très bonne question et de plus en plus fréquente. Moi, je peux dire que j'ai appris avec mes patients l'utilisation de la cigarette électronique parce que ça aide beaucoup de monde. Alors, ça n'aide pas tout le monde, mais ça aide beaucoup de monde. Il faut comprendre ce que c'est. C'est la vaporisation de la nicotine. Ce qui est important quand on a pas envie de souffrir du manque, c'est de prendre de la nicotine pour ne pas souffrir. Et la cigarette électronique est un moyen de prendre de la nicotine qui n'est pas de la combustion. Ce qui est toxique dans la cigarette, c'est quand ça brûle, donc c'est la combustion, la fumée. Là, on ne prend que de la vaporisation de nicotine. Alors, les Anglais sont très pragmatiques pour ça et leurs études actuellement, ils étudient un peu toutes les études hein, qui sont dans le monde, montrent qu'il y a probablement 95% moins de toxicité pour la cigarette électronique que pour la cigarette. Ça veut dire que oui, j'encourage quelqu'un qui veut arrêter avec la cigarette électronique d'arrêter de fumer avec. Il ne faut pas qu'il s'empêche de prendre les traitements validés. On peut très bien associer la cigarette électronique au traitement médicamenteux ou au traitement par substitution nicotinique. Mais je ne conseille pas la cigarette électronique à quelqu'un qui ne fume pas. Cette auditrice a
Dominique,
tout à fait raison.
Hein, Dominique a repris la cigarette.
Alors, Dominique, ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que la cigarette est beaucoup plus addictive que la cigarette électronique. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle cède de la cigarette électronique si elle le veut, mais si elle le veut pas, elle a tous les autres moyens possibles. Elle peut prendre des substituts nicotiniques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est l'association des patchs avec les formes orales qui marchent mieux que les patchs seuls ou les gommes ou les pastilles tout seuls. Et avec ça, elle pourra très bien, quand elle sera avec des gens qui fument, avoir ce shoot de nicotine dont elle a besoin d'une autre manière que la cigarette électronique. Si elle veut prendre la cigarette électronique en plus, si ça l'aide, eh bien qu'elle le fasse. Mais l'important, c'est de savoir que c'est pas parce qu'elle a repris la cigarette, ce qui est positif chez elle, c'est qu'elle a arrêté 9 mois. Alors, elle peut retourner vers le sevrage assez rapidement.
Vous voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Yves Martinet.
Oui, je pense que par rapport à la cigarette électronique, il faut être prudent parce que on devrait parler plutôt des cigarettes électroniques. Parce que actuellement, ça évolue très rapidement. Les produits sur le marché évoluent très rapidement. Et en particulier, l'efficacité de la nicotine et la quantité de nicotine. Alors, en France, actuellement, on est protégé sur la quantité de nicotine par la directive européenne. Mais il y a possibilité d'acheter, je ne vais pas faire de la publicité pour une cigarette électronique, qui a des doses extrêmement importantes de nicotine sous forme de sel de nicotine. Ce qui fait que maintenant, les fabricants sont arrivés à fabriquer des cigarettes électroniques qui sont aussi addictives que la cigarette traditionnelle fumée. Alors, ce qu'il faut, c'est remettre le problème dans son cadre global. Si vous avez fumé, ce qui est mon cas, je mourrai dépendant à la nicotine. J'aurai encore envie de fumer tant que je serai vivant de temps en temps. Ceci étant dit, à partir du moment où on quitte la consommation de nicotine, c'est-à-dire où on arrête complètement de consommer la nicotine, au bout de quelques mois, quelques années, on est quand même beaucoup plus tranquille. Et la limite de la cigarette électronique, c'est une étude de l'INSERM qui est sortie tout à fait récemment, c'est elle aide peut-être certains, pas tous, mais certainement elle aide certains fumeurs à arrêter de fumer. Mais ceux qui arrêtent avec la cigarette électronique rechutent plus souvent que ceux qui ont arrêté avec les substituts nicotiniques. Donc l'idée simple, c'est de dire d'abord essayer ce qui a été démontré de façon efficace et scientifique, les substituts nicotiniques, et après vous pouvez essayer la cigarette électronique.
Marion Adler, vous voulez ajouter quelque chose ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yves dans le sens où je vois avec mes patients, il y a quand même beaucoup de patients qui arrivent à arrêter, qui sont aidés, et très souvent en effet je leur propose les traitements validés s'ils ont envie de la cigarette électronique en plus. Il y a beaucoup de gens qui sont aidés, et l'important c'est de trouver ce qui vous convient. Et il y a quand même beaucoup de gens qui arrêtent de fumer en disant la cigarette électronique c'est la première fois que je vois quelque chose qui m'aide au niveau du plaisir. Donc il faut aussi comprendre ça. Moi j'encourage mes patients à prendre le temps qu'il faut et au fur et à mesure l'éliminer si ils ont la possibilité de le faire, si ça ne les fait pas retourner vers la cigarette.
Surtout. Alors moi j'ai bien entendu ce que vous nous disiez tous les deux, c'est que la cigarette électronique c'est mieux que la cigarette tout court.
Largement.
Mais qu'est-ce qui nous indique que la cigarette électronique c'est pas un poison à long terme et que les personnes sont pas en train de s'intoxiquer
alors,
avec autre chose ?
Il y a Yves Martinet. Aucune preuve. Alors je sais un peu être pointilleux. C'est-à-dire que les Britanniques ont dit qu'il y avait soi-disant 95% de moins de risque que le tabac fumé. En fait, quand on retourne vers les papiers initiaux, vers cette réunion, ça ne reposait pas sur des données expérimentales objectives avec du recul. C'était un petit peu au doigt mouillé. Pour l'instant, première chose, et on est tous d'accord là-dessus, on n'a pas de recul suffisant. Deuxièmement, il y a des études, par exemple, les cardiologues qui commencent à publier des études sur des atteintes vasculaires qui sont liées à la cigarette électronique.
On n'a pas le recul de la cigarette, mais on a quand même des reculs maintenant de 10 ans.
Oui, mais pour les cigarettes, il faut plus de 10 ans.
Donc, oui. Entre-temps, il y a des gens qui s'arrêtent de fumer avec, donc c'est important quand même.
Donc, je continue. Les produits aussi, j'ai dit les cigarettes électroniques, parce que il y a les appareils qui sont différents, chauffage différent, etc. Deuxièmement, il y a les produits qu'on peut mettre. Et on s'aperçoit que la nicotine, d'abord, on connaît mal, mais ça dépend de la quantité qui est inhalée. Et ça va dépendre un petit peu du modèle de cigarette électronique qu'on a. Mais par exemple, vous avez des produits comme le menthol, comme la cannelle qui sont utilisés. Et ce sont des produits qui vraisemblablement ne sont pas bons pour la santé en inhalation. C'est le pneumologue qui parle.
Alors, pneumologue du CHU de Nancy.
Moi, je dis très clairement,
il y a deux écoles.
Oui, mais parce que je suis là pour aider mes patients et je le vois. Et clairement, il faut continuer à faire des études scientifiques. Et c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, parce que les Anglais ont formé un groupe et ils continuent tout le temps, tous les mois, à se retrouver pour justement voir toutes les études qui sont faites. Donc, ils continuent à dire la même chose avec ces études-là. Et ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'on va pas attendre 10 ans avant de dire oui, allez-y, utilisez la cigarette électronique, c'est beaucoup moins dangereux. On a pour l'instant clairement des avancées qui montrent que beaucoup de gens sortent du tabac. Je conseille à un moment donné d'arrêter la cigarette électronique, bien sûr. Mais si vous y arrivez avec la cigarette électronique, allez-y et on n'attendra pas 10 ans. Et j'ai beaucoup de patients, heureusement, que j'ai aidés. Et je reviens sur les sels de nicotine. J'ai aussi des patients qui sont aidés par les nouvelles formes qui sont les sels de nicotine. Et je dois dire que c'est en particulier des patients qui sont addicts au tabac et au cannabis. Et ça permet des vrais progrès.
Merci beaucoup Marion Adler. François est au standard et ça fait bien 8 minutes qu'il patiente. Bonsoir François.
Bonsoir.
C'est à vous, on vous écoute.
Non, moi c'était juste un témoignage pour dire que j'ai arrêté de fumer à l'âge de 40 ans après avoir fumé plus de 20 ans. presque 25, et j'ai arrêté lorsque ma femme m'a annoncé que, ma femme m'a annoncé qu'elle attendait un bébé, j'avais 40 ans, et donc je me suis mis comme but d'arrêter de fumer le jour où le bébé serait né. Et en fait, j'ai eu plusieurs mois pour m'y préparer, réduire un peu, en parler autour de moi, et effectivement, ben, le jour où le bébé est né, trois jours après, puisque j'ai arrêté le jour où ma femme est rentrée à la maison, ben, j'ai arrêté de fumer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut, on peut? C'est ça que vous voulez nous dire?
Je veux dire que quand on a un but et qu'on s'y prépare vraiment, moi j'ai mis 7 mois à me préparer à arrêter.
C'était votre temps de gestation à vous, voilà. On va dire ça comme ça.
Diminuer la quantité et voilà. Et puis bon, quand c'est arrivé, ben il y avait le bébé. Et puis quand j'avais envie de fumer, je prenais du chocolat noir, ça m'enlevait un peu l'envie de fumer. Et bon, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on reste avec l'envie de fumer pendant des années, hein, pendant 2, 3, 4 ans. Mais voilà, aujourd'hui, je ne fume plus.
Allez, on n'a qu'un mot, François, bravo. Merci pour ce témoignage. Marion Adler, oui. Et puis ensuite Yves Martinet.
En effet, bravo François. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous inégaux devant ça. Et alors, certaines personnes vont avoir du mal et vont trouver que c'est difficile. Et s'ils ont les aides suffisantes, finalement, c'est beaucoup plus facile qu'ils ne pensaient. Et l'envie peut disparaître assez vite. Et je ne suis pas d'accord avec le fait de dire qu'on reste des années en train de souffrir. Pas du tout. Il y a des gens qui ne souffrent pas du tout. Si vous les accompagnez bien, j'ai beaucoup de patients qui me disent « Si j'avais su que c'était aussi simple, je l'aurais fait bien avant avec ces traitements-là. » Donc ça, c'est important. D'autre part, les femmes enceintes aussi, alors j'en profite pour dire ça, peuvent être aidées. Il y a aussi des traitements disponibles. Les substituts nicotiniques sont les seuls traitements disponibles pour les femmes enceintes, mais on n'aide pas suffisamment les femmes enceintes. Donc sachez que vous pouvez aussi le faire sans souffrance.
Yves Martinet, et puis ensuite, on va essayer de voir effectivement quels sont les
En fait, l'expérience de François est intéressante parce que chacune et chacun a sa motivation. Et il y a les motivations qu'on énonce et les motivations qu'on n'ose pas énoncer. Et il y a à la fois des motivations pour arrêter de fumer, il y a les motivations pour ne pas y aller parce qu'on se dit « je vais pas y arriver, ça va être dur », etc. Et le rôle du médecin, j'ai consulté pendant 40 ans des fumeurs qui voulaient arrêter de fumer, c'est de les amener à se dépassionner par rapport à la question, à se tranquilliser et à les faire réfléchir au jour le jour. Si vous êtes fumeur et que vous vous dites « je vais passer toute ma vie », et ça c'est mon expérience personnelle, vous vous dites « vous allez passer toute votre vie à ne pas fumer », vous reculez, ce n'est pas possible, c'est trop. Par contre, allez-y par petites tranches, une demi-journée, une journée, deux journées, trois journées, une semaine, un mois. Et c'est comme ça qu'on y arrive.
Alors on va voir effectivement toutes les techniques qu'il peut y avoir, mais on va prendre Janine qui a arrêté, elle, grâce à quoi, Janine? Bonsoir.
Bonsoir, j'ai arrêté grâce à une unique séance d'hypnose.
Bah dites-moi, ça a été efficace, hein, votre affaire?
Oui, et en fait ça faisait pas mal d'années que je fumais, et quand j'ai été à la retraite, je fumais encore plus que quand je travaillais, puisque bon, je ne fumais que pendant les pauses, et à un moment donné, en plus habitant loin de tout, on habite dans un petit village rural, il est arrivé un moment où je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, donc j'ai pris un rendez-vous sur un cabinet parisien pour une séance d'hypnose. L'astuce consiste à vous faire attendre un mois pour le rendez-vous, je pense pour vous permettre d'être sûr de vouloir vraiment y aller, et en fait, la séance, donc vous avez un entretien personnel et puis après c'est une séance collective. Et je suis sortie de là, c'était terminé. J'ai arrêté de fumer. J'ai jeté le paquet de cigarettes que j'avais sur moi et depuis Alors ce qui est formidable, c'est que je ne ressens aucun manque et je suis pas du tout gênée par les gens qui peuvent être autour de moi en train de fumer. Et d'autre part, bon, c'est le plaisir de retrouver sa respiration, de ne pas avoir peur de monter un escalier, de partir en marche une heure tous les jours. Surtout se libérer de cette espèce d'esclavage qui fait qu'on est toujours sur le qui-vive pour savoir si on va avoir assez de cigarettes pour finir la journée.
Merci mille fois, Janine, pour ce témoignage. Docteur Yves Martinez, c'est miraculeux.
Oui, alors c'est miraculeux. L'hypnose. Le problème, c'est que c'est difficile de définir quels sont les traitements efficaces pour arrêter de fumer. Pour un motif simple que tout le monde va comprendre, c'est que beaucoup de fumeurs arrêtent d'eux-mêmes sans avoir recours à aucun traitement ou à aucune aide.
On sait la proportion de fumeurs qui arrêtent tout seul?
Non, mais justement, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Il y a des études qui sont faites, mais on sait assez mal quelles sont les stratégies que les fumeurs qui n'ont pas recours, soit aller voir le pharmacien, le médecin, etc. On ne sait pas exactement quelle est leur stratégie. Il y a différentes stratégies. Mais donc, la question qui se pose, c'est quelles sont les approches, quels sont les traitements qui sont efficaces, sachant que vous avez un certain nombre de personnes qui vont arrêter seules. C'est exactement comme quels sont les traitements efficaces du rhume, sachant que le rhume va se guérir spontanément. Alors, il y a une grande différence, c'est que le rhume guérit à 100%, mais le tabac,
que le rhume,
c'est
ça vous
quelques...
met pas dans un état aussi...
Non, non, mais le tabac, c'est un petit pourcentage. Mais ce petit pourcentage existe, ce qui fait que pour répondre à la question, quel que soit le traitement proposé, que ce soit l'hypnose, la cigarette électronique, les substituts nicotiniques, etc., il faut faire des études en double aveugle randomisé. D'ailleurs, à Paris, et dans la France actuellement, il y a une étude qui est financée par l'État français pour évaluer justement l'efficacité de la cigarette électronique, savoir si oui ou non, en double aveugle, c'est efficace ou pas. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes disent « ça a été efficace ». Mais la relation de cause à effet entre un événement et un effet n'est pas obligatoire. Donc il faut le démontrer scientifiquement.
Des choses à étudier, Marion Adler.
Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des traitements, en effet, qui sont validés par des études, comme disait Jean-Yves Martinez. C'est par exemple les substituts nicotiniques et les traitements médicamenteux, hein, comme la varenicline, d'aide à l'arrêt du tabac, ça c'est validé. L'hypnose, si ça l'a aidé, c'est très bien, Janine, et ce qu'elle a dit, c'est très important, c'est que ça l'a libéré. Et en effet, c'est la libération d'un esclavagisme, le fait de plus fumer. Maintenant, certaines personnes vont arrêter seules. L'important, c'est de pouvoir être aidé pour ne pas prendre de poids, ne pas être anxieux, ne pas être déprimé, ne pas ressentir le manque de nicotine. Et je crois que c'est important, on est tous égaux. Si on arrête de fumer, on arrive au même niveau et on a gagné. L'important, c'est d'y arriver, peu importe les méthodes, mais il faut toujours prendre ce qui vous aide le plus et surtout ne pas souffrir. Moi, je dis à mes patients, ça sera sans souffrance, on va le faire à votre rythme. Et on peut très bien, par exemple, commencer à diminuer en premier si on a pris un patch. On peut fumer avec un patch et ensuite, au fur et à mesure, diminuer le nombre de cigarettes en augmentant la dose de nicotine. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut le faire d'un coup. C'est chacun sa méthode à soi. Mais en effet, tant mieux si ça a aidé Janine, ça peut aider en plus. Moi, je dis souvent, on peut très bien mettre des patchs, prendre des gommes, et faire de l'hypnose en plus, si ça vous
aide. En tout cas, il y a des outils aujourd'hui, et en plus, ils sont remboursés, c'est ça?
Absolument. Là, maintenant, c'est complètement remboursé comme un médicament classique, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de débourser de l'argent quand vous allez chercher les substituts nicotiniques ou la varenicline. Ça veut dire que sur ordonnance, vous avez le remboursement complet si vous avez mutuelle plus sécurité sociale. C'est quand même une énorme avancée, vous n'avez plus besoin d'avancer l'argent non plus.
Et puis, petite question aussi aux deux praticiens que vous êtes. On n'a pas forcément un service spécialisé à côté de chez soi. On peut aller voir le médecin généraliste. Normalement, il est habilité, il sait ce qu'il faut faire.
On peut aller voir le généraliste. On peut aussi aller voir le pharmacien. Il y a des pharmaciens qui sont tout à fait au courant et qui sont formés. Et ensuite, on peut aller voir un médecin pour la prescription. On peut aussi faire appel à des aides comme Tabac Info Service. On peut être aidé par beaucoup de manières, et il faut une prescription juste pour le remboursement des traitements.
Alors, vous avez raison de parler de Tabac Info Service. Je suis en train de chercher le numéro de téléphone. Je devrais le retrouver sans tarder. Je vous donne la parole en attendant, Yves Martinet, que j'ai retrouvé. Ah ben voilà, le 3989.
Voilà.
Non, c'est important de le donner. Il y a un site internet, il y a une page Facebook, il y a tout ce qu'il faut pour avoir toutes les informations. Yves Martinet, c'est à vous.
Oui, alors malheureusement, en France, actuellement, il y a des médecins qui sont formés, il y a des infirmières, des pharmaciens, etc. Mais malheureusement, les professionnels de santé ne sont pas actuellement suffisamment formés à l'aide au sevrage tabagique. Et je rappelle que le médecin ou l'infirmière ou le pharmacien a deux rôles principaux. Le premier est de faire évoluer la motivation, c'est-à-dire d'amener le fumeur, en dédramatisant la question, vers l'hypothèse d'un arrêt et la décision d'arrêter. Et la deuxième partie de son approche qui est d'aider techniquement, puis après de suivre et de prévenir les rechutes. Mais rappelez-vous, il faut pas se stresser. En moyenne, 6 à 7 rechutes avant un arrêt définitif. Vous n'êtes pas meilleur, vous n'êtes pas moins bon. Il faut pas avoir peur. Et à chaque arrêt, même s'il y a une rechute, on capitalise et on est meilleur pour l'arrêt suivant.
Voilà, on se décourage pas. Benjamin nous appelle à son tour.
Non, s'il vous plaît, non.
Benjamin, êtes-vous
oui.
là?
Oui. Oui, je suis là, tout à fait.
Vous avez demandé à tout le monde de se taire, c'est parfait, on vous écoute, vous êtes parfait. Sur l'antenne de France Inter.
Oui, bonjour. Donc Benjamin, moi je suis cardiologue et je suis amené à traiter en fait une complication du tabac qui est l'infarctus du myocarde. Donc heureusement, effectivement, tous les fumeurs ne font pas des infarctus, mais une bonne partie des infarctus quand même sont liés au tabac. Et c'est vrai qu'on est quand même surpris de voir que ces patients souvent jeunes ne connaissent pas les symptômes qui sont liés à l'infarctus du myocarde. Et moi, mon idée, c'était finalement, est-ce que sur les paquets de cigarettes qu'ils croissent quand même tous les jours. Est-ce que finalement un message de prévention, plutôt que des messages qui sont quand même assez négatifs, on voit des gens avec des états assez dramatiques ou des messages assez négatifs, est-ce que finalement faire passer des messages des sociétés savantes, de la Société française de cardiologie sur l'infarctus du myocarde, de la Société française de neurologie sur l'AVC, est-ce finalement les mettre sur ces paquets, ce serait pas une idée, parce qu'on a vraiment l'impression quand même que les pathologies au tabac, une partie d'entre elles, notamment les pathologies vasculaires, sont curables, et que le retard à la prise en charge est vraiment dommageable à ces patients.
Merci beaucoup Benjamin pour cette remarque, Yves Martinet.
Très content que vous parliez des questions cardiovasculaires, du risque cardiovasculaire, parce que c'est quelque chose qui est mal connu. Pour les paquets...
On précise juste une chose, parce que moi j'ai... Le cancer, c'est la cause la plus fréquente de décès quand on fume, et viennent ensuite
les maladies cardiovasculaires,
et
puis les maladies respiratoires.
On est d'accord. C'est ça.
Alors, deux choses. Par rapport, ça a été évoqué, c'est par rapport au paquet neutre. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour avoir le paquet neutre, et je suis assez d'accord sur le fait qu'il faudra que progressivement on se fasse évoluer le paquet neutre en fonction d'enquêtes auprès des consommateurs, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils savent et quels sont les messages qu'il faudrait. Et ça, je suis d'accord. Simplement, j'insiste sur une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse d'analyse de recherche qui a été publiée et le cardiologue va être intéressé. Si on fume une seule cigarette par jour, je dis bien une seule cigarette par jour, le risque est plus élevé chez la femme que chez l'homme. On va prendre la femme. L'augmentation du risque d'infarctus est de 48% et celle d'accident vasculaire cérébral 25 ou 30%, j'ai plus le chiffre exact.
Pour une cigarette.
Ouais,
c'est cher payer
jour.
La cigarette quand même.
Mais
hein.
Oui, et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur le tabagisme passif. Le tabagisme passif ne tue pas par cancer, ou il tue un peu. Non, je suis schématique. Il tue un peu par cancer, mais il tue beaucoup par maladie cardiovasculaire, parce que dès qu'on est exposé, je vais pas rentrer dans les mécanismes physiopathologiques, mais dès qu'on est exposé à la fumée de tabac, active ou passive, tout de suite, les plaquettes sont activées et les vaisseaux deviennent réactifs.
Alors Benjamin a eu raison de nous alerter sur cette question des maladies cardiovasculaires. Il faudra peut-être d'ailleurs faire un téléphone sonne spécifique là-dessus, ce ne sera pas inutile. Juste une petite chose, parce que dans les campagnes actuelles, il y a un focus qui est mis sur la BPCO. Moi j'ai découvert que ça faisait 18 000 morts par an et que 70% des personnes qui en souffrent n'étaient pas diagnostiquées. En deux mots, vous qui êtes pneumologue, Yves Martinet, c'est quoi la BPCO ?
La BPCO, c'est un terme horrible qui veut dire deux maladies qu'on comprend bien, qui sont la bronchite chronique et l'emphysème. Progressivement, quand on fume, les bronches et les poumons, les alvéoles, sont détruits progressivement. Et à partir de ce moment-là, on devient insuffisant respiratoire avec l'oxygène et la mort par insuffisance respiratoire. Est-ce que je peux me permettre de glisser une question personnellement sur la vente aux mineurs? J'aimerais pouvoir
Alors,
en parler.
Je vous promets qu'on va en dire un tout petit mot. Il est déjà 55 et j'aimerais qu'on prenne un dernier appel, si vous me le permettez tous les deux. C'est Michel qui est à Perros-Guirec. Michel, ancien fumeur, il n'est plus là, il est parti. Bon ben voilà, donc vous allez pouvoir, Martinet, nous parler de la vente aux mineurs.
Alors, actuellement, on a une excellente législation en France pour lutter contre le tabagisme. Seulement, malheureusement, certaines lois ne sont pas appliquées. Il y en a deux qui ne sont pas appliquées. Il y en a une qui n'est pas appliquée du tout, qui est l'interdiction de vente aux mineurs. Les buralistes sont obligés, par la loi, de vérifier l'âge de leurs clients. Ils ne le font quasiment jamais. Or, c'est un véritable scandale sanitaire, dans la mesure où ils vendent une drogue dure, qui rend, je l'ai dit, deux enfants sur trois qui en fument une, toxicomanes, et qui en tueront un sur deux qui continuera à fumer toute sa vie. Donc c'est un scandale. Deuxième loi qui est peu appliquée ou mal appliquée, c'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics où on sent qu'il y a des relâchements. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrôle.
Notamment les fameuses terrasses de café où on a inventé ces trucs qui sont des zones fumeurs qui ne disent pas leur nom. Marion Adler.
Oui, alors quelque chose de très positif quand même, et c'est important de le dire aussi, c'est qu'en 24 heures, quand on arrête de fumer, on élimine le monoxyde de carbone et on récupère une oxygénation normale. Donc déjà, on va récupérer de l'endurance. Donc je voulais parler un peu du côté positif. Et les maladies cardiovasculaires, au bout d'un an, disparaissent quasiment le risque. Alors ça dépend à quel âge on a commencé, ça dépend évidemment quel âge on a et combien de temps on a fumé, mais je pense qu'il y a aussi des messages positifs qu'il faut donner, parce que quand on arrête de fumer, très rapidement, on récupère. Et puis pour ces lieux publics, c'est vrai que maintenant, j'ai vu que la ville de Strasbourg avait quand même été en exemple pour les parcs publics sans tabac. La ville de Paris probablement va suivre.
Aujourd'hui, elle a annoncé 50 parcs dans voilà. lesquels on ne fumera pas. Il y a eu les plages de La Rochelle et de Marseille aussi.
Donc ça
nous
suivre.
A été annoncé aujourd'hui.
Mais vous avez raison, sur les terrasses, il faut encore qu'on fasse vraiment un effort parce que dès qu'il fait beau, c'est difficile d'être non-fumeur sur les terrasses ou en tout cas de ne pas être envahi par la fumée. Et je veux dire aussi autre chose, c'est que pour les gens qui arrêtent de fumer, c'est pour eux que c'est important qu'il y ait les lieux publics sans tabac. Parce qu'un fumeur qui veut s'arrêter, s'il a une terrasse avec des gens qui fument autour de lui ou un restaurant avec des gens qui fument autour de lui, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'un non-fumeur va s'éloigner. Mais pour le fumeur qui s'arrête, c'est important que les lieux publics soient sans tabac. Donc c'est pour les fumeurs que les lieux publics doivent être sans tabac.
Ça veut dire qu'au-delà des messages que vous pouvez faire passer directement aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer, l'action des pouvoirs publics reste essentielle.
Ah, c'est fondamental et c'est fondamental à la fois pour prévenir l'entrée en tabagisme et pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, qui sont les deux façons d'aborder cette question.
Sur le coût du tabac, on sait que les cigarettes ont augmenté, ça va continuer. Ça, c'est une mesure qui a montré son efficacité, Marion Adler ?
Oui, absolument. C'est quelque chose que l'on voit en Angleterre et qui a vraiment montré son efficacité et qui aide énormément. Et dans les pays anglo-saxons, hein, comme l'Australie, on voit que le paquet, plus il augmente, moins il y a de gens qui viennent au tabagisme. Et surtout, c'est une mesure qui est très utile chez les jeunes. Donc surtout, c'est quelque chose que le gouvernement a bien compris, il faut absolument augmenter le prix pour que les gens se motivent. Et j'ai pas mal de patients qui viennent en disant, le fait que ça augmente, j'ai plus envie de donner 250 euros par mois, parce que c'est ça actuellement, hein, 250 euros par mois à l'industrie du tabac, et je vais pouvoir économiser 3000 euros par an.
Yves Martinet.
Simplement un mot, arrêter de fumer, c'est le 13e mois, et 10 euros le paquet, c'est une étape, ça n'est pas un objectif.
J'ai une question, Octave, ça c'est une question sur Twitter, quelle est la différence de nocivité entre une cigarette industrielle et une cigarette roulée ? Parce qu'il y a certains font des économies à ce niveau-là. Marion Adler.
Alors, une cigarette roulée est 2 à 3 fois plus toxique que la cigarette industrielle, donc elles sont toutes les deux toxiques, mais il faut savoir que si l'on fume une dizaine de cigarettes roulées, c'est l'équivalent au moins d'un paquet par jour.
Donc méfiance avec le tabac à rouler. Un tout dernier mot et ensuite on va rendre l'antenne. Des actions du genre le mois sans tabac, la journée mondiale sans tabac, c'est efficace? Vous voyez des gens qui arrivent vous voir après ce genre de choses?
Alors ça c'est très très efficace et on a vu justement, on a copié les Anglais encore une fois là et pour des bonnes choses. Et c'est vrai que le mois sans tabac fait énormément évoluer les choses et les gens arrêtent en groupe, en couple, etc. C'est très positif.
Voilà et on espère que ce soir il y a des gens qui après le téléphone sonne viendront vous voir, hein, qui sait-on?
Merci.
Yves Martinet, on ne sait jamais. Merci beaucoup à tous les deux, Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, Yves Martinet au CHU de Nancy. Merci d'être venu. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et ils se reconnaîtront. Et un grand merci tout particulier au service de la documentation d'actualité de Radio France, dont le travail est si précieux.